Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir où que vous soyez actuellement. Nous suivons sur la 93.5. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée, puisque vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Et vous êtes toujours très nombreux à nous suivre dans cette émission, puisque c'est devenu en quelque sorte votre quotidien. Merci pour cette fidélité à nous accorder. Le ministère de la Sécurité, de la protection civile renforce le dispositif de contrôle et de surveillance le long de la frontière ouest de Lomé, la capitale bien sûr. La mesure issue d'une récente évaluation de la situation sécuritaire dans la capitale vise à consolider la protection du territoire face aux menaces internes et transfrontalières. Selon le communiqué officiel rendu public le mardi dernier, l'initiative vise à la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et la réduction des risques liés à l'immigration irrégulière, au trafic illicite et aux atteintes à la sécurité publique. Les autorités citent notamment le trafic de stupéfiants et de produits prohibés, la traite des êtres humains, la contrebande de carburant, gaz, médicaments ou denrées, ainsi que la circulation d'armes, de munitions ou de véhicules volés et utilisés à des fins criminelles. Et pour y répondre, plusieurs mesures sont entrées immédiatement en vigueur. Tous les points de passage non autorisés et brèches clandestines ont été fermés. Le dispositif de surveillance est redéfini et renforcé. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse et nous allons l'aborder bien sûr dans cette émission Club de la Presse. Et nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus aujourd'hui dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi 5 septembre 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Vitok Betomega est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous n'êtes pas sans savoir que vous pouvez aussi nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Lébélé. Un Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec mes invités et confrères journalistes en studio avec moi, confrères journalistes, Firmin Tako Agbo, bonjour.
Bonjour Pascal Lossou, merci de m'avoir invité.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien, par la grâce de Dieu, ce Dieu qui nous bénit et qui nous protège, qui nous donne la vie. Donc il est toujours avec nous. Ce que nous pouvons faire, c'est régulièrement lui exprimer toute notre gratitude. Et c'est grâce à sa bonté et à sa magnifique présence que nous sommes ici, dans cette salle, dans ce studio. Toujours avec l'espérance que demain, il fera toujours beau.
Et chaque fois que demain sera meilleur.
Oui, ce sera meilleur. Nous sommes dans un pays extraordinairement béni. Un pays qui s'impose. Qui s'impose. Les gens appellent le Togo un pays particulier, mais un pays qui, au-delà de tout, arrive ou réussit toujours à s'imposer. Quand vous voyez un peu, peut-être il y a beaucoup de choses qui se font avec nos voisins, mais nous gardons notre particularité. Nous avons adopté un régime parlementaire que nous avons un peu rendu particulier. Nous n'avons pas conformé le gouvernement. Avant, moi, je critiquais un peu
ce mais celle-là aussi, c'est pas une particularité.
Oui, c'est une particularité. Ça veut dire qu'en réalité, bon, les partis qui existent dans le monde, mais nous, on veut, on prend du temps pour faire des choses selon nos réalités, selon nos normes. Pourquoi est critiqué? Parce que vous imaginez, il y a des gens, un jour on dit, au niveau de l'Angleterre, on dit d'accord, donc on adopte un régime parlementaire, on adopte un royaume. En Espagne, on dit on adopte un régime parlementaire, on adopte un royaume. Bon, personne ne les a critiqués. Nous aussi, je pense que nous sommes dans cette voie-là. Et moi, je demande juste à ceux qui nous dirigent de prendre du temps pour pouvoir analyser l'histoire politique, géopolitique, psychologique du Togo, pour pouvoir construire nos tests par rapport à nos réalités. Et je pense que le Togo sera toujours brillant ou rayonnera aux yeux des autres pays du monde.
Merci Firmette Kouagbo et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vois, je ne sais pas si c'est un sourire quoi de la part alors de Gabin quand tu parlais, mais ce qui est sûr, je le voyais sourire. Alors Gabin Adjaro, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Firmin, bonjour aux co-débatteurs ici présents et bonjour surtout aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent hein, de l'autre côté. Bonjour aussi aux techniciens qui, grâce à eux, on nous écoute quand même. Et bonjour surtout à mes amis de la Côte d'Ivoire, à mon ami Fabrice Lago, un membre influent du PPACI. Et du courage surtout à eux, parce que ça fait pratiquement 4 jours que le jeune Ibrahim Ziggy a été enlevé, parce que jusque-là, on fait le tour des commissariats et tout, mais on n'arrive pas quand même à le retrouver. On ne sait pas où il se trouve actuellement. Donc, mes encouragements à eux et vivement qu'on arrive à retrouver le jeune Ibrahim Ziggy qui n'a rien fait de mal. Il a juste demandé à ce que les populations se mobilisent pour aller au Conseil constitutionnel. Mais malheureusement, il a été enlevé hein, dans la foulée de cette vidéo-là. Personne ne sait même ce qu'on lui reproche. Donc, vivement qu'on le retrouve et que la main de Dieu soit sur lui, là où il se trouve actuellement. Et j'aime bien l'optimisme. C'est vrai que c'est pas un débat. Hein. J'aime bien l'optimisme de Firmin. Mais moi, j'aime vivre le présent. Nous savons que le Togo sera meilleur demain, mais pour le moment, ça ne va pas. On crie pratiquement hein, sur tous les toits. Certains parents réclament même le report de la rentrée scolaire. On nous a promis une 5e République dans laquelle le lait et le miel vont couler quand même dans nos robinets, mais jusque-là, on ne voit absolument rien. Même l'exécutif qui doit implémenter quand même les projets du gouvernement n'est pas encore là. Et donc, je peux dire que pour le moment, au Togo, on ne se sent pas bien.
On va en parler dans la suite alors de cette émission. Mais ce qui est sûr, Elom d'Almeida aussi est là. Elom, bonjour.
Oui, bonjour Pascal. Bonjour à tous ici présents. Et également, mes salutations à la population togolaise tout entière.
J'espère que vous allez bien.
Oui, je vais bien.
Alors, je rappelle que vous êtes conseiller régional et aussi analyste politique. Donc, vous intervenez alors dans cette émission de temps en temps avec nous pour faire des analyses alors sur des sujets de l'actualité, n'est-ce pas?
Merci, c'est ça. Je pense que j'aimerais partager une citation de Martin Luther King avec vous, puisque je suis MMLK. Nous avons, il dit, il faut vivre comme des frères, sinon nous allons mourir comme des idiots. Il faut vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir séparément comme des idiots. Donc, c'est un clin d'œil à tous les militants et sympathisants et à la population, tous ceux qui suivent les actions du mouvement Martin Luther King. Au Togo.
Nous sommes condamnés à vivre ensemble et également à porter notre pied à l'édifice ou à la construction alors de cet édifice qui est le Togo.
C'est ça, c'est bien ça.
C'est bien ça. merci beaucoup. Justement, nous avons aussi un invité, c'est bien monsieur Komi Nassini. Monsieur Nassini, bonjour.
Bonjour Pascal, et merci beaucoup pour nous avoir accepté à votre émission.
Merci d'avoir accepté surtout notre invitation aussi. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de l'agence éducation-développement AED et également l'agence qui est chargée même d'ailleurs de la création et du pilotage et des IFAD dans notre pays, le Togo. Justement, nous allons parler alors des IFAD alors dans cette émission puisque nous sommes pratiquement à la rentrée alors de ces IFAD. Et donc, il est très important qu'on commence par parler alors de cette rentrée et de ces recrutements que vous êtes en train de faire, puisque ça a été annoncé tout récemment. Alors d'abord, quand on parle alors des IFAD, qu'est-ce que c'est?
Ah, je vous remercie. L'AED, l'Agence éducation développement, a reçu les instructions de mettre en place des centres de formation qui diffèrent de tout le dispositif qu'on avait avant. Vous savez, dès les indépendances, les premières années, on a mis un accent particulier sur la littérature. Comme vous le savez, l'université a été dominée par les sciences humaines, la littérature et tout. Après, il y a eu une étape supérieure où on a mis un accent particulier sur l'enseignement technique. Et après, aujourd'hui, je pense que la mission qui a été confiée à l'AED, c'est pour aller à un troisième niveau, hein, accentuer la formation professionnelle, la formation par l'exécution, un peu par l'apprentissage. Et donc, l'AED a mis en place, est chargée de continuer de mettre en place ces centres de formation où quand vous allez, dès le premier jour, vous commencez la pratique du métier pour lequel vous êtes allé. Et vous le faites durant toute votre formation, en recevant des cours, des connaissances, mais en pratiquant le métier. Au point où, quand vous sortez de ce centre de formation, vous avez pratiquement l'expérience professionnelle du nombre d'années que vous avez passées dans ce centre de formation. Et donc, voilà ce qu'on fait dans les IFAD. On donne de la formation professionnelle, professionnalisante, qui permet aux jeunes, dès leur sortie, d'avoir des compétences conformes à la demande du marché du travail, d'être en mesure de s'installer pour leur propre compte. Et donc, IFAD signifie Institut de formation en alternance pour le développement. Institut de formation en alternance pour le développement. Et donc, la formation se fait en alternance, et ce que je viens de décrire se trouve dans le mot alternance. C'est-à-dire, voilà, on forme au campus, oui, dans un IFAD, et dans les entreprises en même temps.
D'accord. On forme justement dans l'IFAD et dans les entreprises, ce qui veut dire que on fait également la pratique en même temps, et puisque c'est basé plus alors sur la pratique, vous l'avez si bien dit. Ouais. Alors, c'est quoi la particularité alors des IFAD?
La particularité des IFAD, d'abord, c'est le processus de mise en place d'une formation. Vous savez, moi j'ai été enseignant avant, j'ai été enseignant professeur de philosophie. Quand vous arrivez, on vous donne un chapitre, le titre d'un chapitre, et puis vous préparez le cours. C'est ce que nous avons toujours fait, les professeurs d'histoire.
Le cours magistral.
Vous demandez. On vous donne les chapitres. Je me suis renseigné même à tous les niveaux. Je ne vais pas nommer des institutions de formation et tout. Mais jusqu'ici, on vous liste les chapitres, et puis vous passez à l'action, en vous inspirant des anciens cours et toutes vos connaissances, etc., mobilisant votre expérience et tout. Mais au niveau des IFAD, il y a une particularité que je dirais même une révolution. Avant de mettre une formation en place, vous discutez avec les professionnels du secteur pour déterminer leurs besoins, ensemble avec eux. Et quand vous travaillez comme ça, dans un premier temps, vous leur expliquez le besoin de créer une formation et qu'il est convenu qu'il y a un vrai besoin dans le secteur, vous demandez à ces professionnels de vous fournir le référentiel professionnel. Par exemple, s'il s'agissait de mettre une formation en place pour le métier de journaliste, c'est aux journalistes qu'on va demander, qu'appelez-vous journaliste? Quelle est la liste des activités qu'un journaliste doit connaître? C'est aux journalistes qu'on demande. Ils nous fournissent cette liste des activités.
Parce que ce sont des pratiquants
du métier. Exactement. Et c'est eux qui nous donnent ce référentiel qu'on appelle le référentiel professionnel. Et c'est à partir de ce référentiel professionnel que nous créons le référentiel diplôme. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler, en langage simple, le programme de formation. En répondant à chaque fois à la question, voilà la liste des activités données par les professionnels. Pour connaître ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Aussi bien en connaissance théorique qu'en pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous donnons un contenu à cela. Ainsi de suite. Et les professionnels valident à la fin le référentiel de diplôme qui comprend l'ensemble des activités à connaître pour avoir les compétences requises. Et ce que nous avons fait comme contenu de formation, à la fin, les professionnels le valident. On le met en œuvre avec eux, c'est-à-dire si c'était le journalisme, vous viendrez donner des cours et nos apprenants viendraient ici exercer ce métier comme vous le faites là en tant qu'apprenant. Ils vont le faire tout le temps, si bien qu'à la sortie, ils seront journalistes. Donc la particularité, c'est d'abord ça, dès la conception du programme. Ensuite, on les implique à la formation, comme je viens de dire, et maintenant, au niveau de l'IFAD, on a des ateliers. Par exemple, si c'est pour le journaliste, je le viens encore, puisqu'on est dans un studio, on va mettre, si on veut former un journaliste, on va mettre en place à l'IFAD un studio comme ça, pour faire des simulations d'émissions. Mais ça ne suffit pas. Il faut que l'élève ou l'apprenant soit en situation réelle. Donc, après avoir suivi les cours pour la connaissance théorique et la pratique en miniature, il va venir au studio parler, les auditeurs vont l'écouter, il va écouter sa voix par la suite, se corriger, etc. Être dans la peau de vrai journaliste pendant toute la période de sa formation. Et à la sortie, il est un journaliste. Mmh. Et quand il va venir chez vous pour être embauché, vous n'allez pas avoir à faire ce qu'on a l'habitude d'appeler le stage. Où il va venir pour le stage. Et là encore, nous savons bien qu'est-ce qui se passe. Quand vous recevez un stagiaire, c'est lui, vous envoyez, vous achetez de la bouillie, des beignets par ici, par là. Et ça, ça ne démarre pas. Mais ici, pour notre cas, quand il vient, il est prêt à être consommé. Le dernier élément de la particularité des IFAB, je vais vous le dire, c'est que quand ils sortent jusqu'ici, l'État s'implique pour leur installation. L'État s'implique. Et je peux vous le dire, la première promotion est sortie en 2022 au niveau de l'IFAD Aquaculture, l'IFAD qui était le premier à être créé. Ils étaient 112. Au jour d'aujourd'hui, les 112 sont installés. Les 112 sont installés et produisent du poisson. En individuel comme en association.
Mais là, je ne comprends pas, M. Nassini. Est-ce que ça veut dire que l'État leur donne des subventions pour créer leur propre entreprise après avoir fait la formation dans
l'État les États ? L'État ne leur donne pas des subventions, mais l'État leur facilite l'accès au crédit. Parce que si l'État, vous savez, on ne doit pas tuer le secteur qu'on veut développer. Imaginez qu'on formait des journalistes et puis nous, on les subventionne, ils créent gratuitement, donc entre guillemets, parce qu'ils ont l'argent de l'État, ils créent des studios. Et ils n'ont pas investi. Et vous voyez qu'il y aura une concurrence déloyale. Parce que vous avez investi, mais eux, ils ont la subvention. Vous ne pouvez pas véritablement être au même niveau de concurrence. Mmh. L'État a tenu compte de cela. Donc, on ne leur donne pas de l'argent, mais on leur facilite l'accès au crédit avec un taux de remboursement très faible. Voilà le mécanisme qui est mis en place pour les accompagner.
D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est quoi le bilan que vous établissez pour ce qui concerne le projet de création des IFAD, alors sur toute l'étendue du territoire national?
Je vous remercie. Je pense que la volonté du gouvernement s'est manifestée en 2017, où nous avions eu les instructions de commencer la création des IFAD. Il était dit qu'il faut créer un seul IFAD et c'était avec un comité de pilotage. Comme c'était pour un IFAD, il n'y avait pas d'agence. Et on a créé l'IFAD Aquaculture. Mais quand on a lancé l'IFAD Aquaculture et le gouvernement, le président du conseil, il a vu ce que c'est maintenant pour de vrai. Il a vu ce que c'est qu'un IFAD. Mais c'est là qu'il a décidé de mettre en place une agence pérenne pour pérenniser la création des IFAD parce qu'il a vu que c'était vraiment un nouveau concept très avantageux pour la jeunesse. Et c'est pour ça qu'on a mis en place l'AED. Donc, pour vous dire que le modèle en lui-même, c'est un succès. Il n'y en a pas dans les autres pays de la sous-région. C'est vraiment un succès. La manière dont nous formons, avec toutes les étapes pour professionnaliser la formation et pour la rendre conforme aux besoins dans le secteur au Togo, pour développer les secteurs socio-économiques et pour favoriser l'épanouissement des jeunes, c'est vraiment une approche nouvelle. Et, et le fait de vouloir créer un IFAD et de décider après d'en créer plusieurs, vous comprenez, c'est déjà un succès. Et après, maintenant, nous sommes lancés dans la création des IFAD. Le premier est ouvert en 2019 et aujourd'hui, nous avons 4 IFAD ouverts, 2 en études. Donc, en ce temps, vous voyez.
Eh oui, les quatre ouverts.
Oui, voilà, il y a 4 IFAD ouverts. Oui. Le premier, c'est l'IFAD d'aquaculture.
Oui.
Le deuxième, c'est l'IFAD de levage à Barkouassi. L'IFAD d'aquaculture à Ilavagnon. L'IFAD Barkouassi est au nord, à Mango, dans la localité de Barkouassi. Et là, on forma à le levage, le levage de toutes les espèces, les bovins, les ovins, les caprins, les porcins, les volailles. Et on a développé un pôle laiterie, parce que les IFAD répondent à des besoins réels aussi des clients. S'il faut parler, comme on le dit maintenant dans les administrations modernes, le citoyen est un client pour dire que l'administration a le devoir de satisfaire le citoyen. Donc, on écoute leurs besoins. Et aujourd'hui, on sait que le lait, tout comme le poisson d'ailleurs pour la création, qui justifie la création de l'IFAD d'aquaculture, les produits là sont importés à plus de 70%. Les produits laitiers, le poisson, c'est à plus de 70%. Donc, il y a un projet dans le projet. quand vous allez à l'IFAD élevage, il y a un projet de développement de la filière laitière. Avec la construction d'une laiterie pour la transformation du lait et avec aussi des expérimentations pour avoir des espèces laitières pour quitter l'élevage où on avait la vache qui donnait 2 litres et demi par jour. S'il y a le veau, il prend presque 1 litre ou 1,5 litre et il n'y a que 1 litre de lait à transformer. On a fait des croisements et on a des métis aujourd'hui sur place qui vont jusqu'à 10 litres de lait par jour. Et on continue.
Mais 10 litres, c'est énorme. Hein?
Oui, c'est vraiment énorme et c'est concret. Si vous allez en tant que journaliste, l'IFAD Barkouassi s'est ouvert, vous allez voir les métis et leur capacité de production laitière. Et ce n'est pas fini. On veut développer la production au niveau des éleveurs locaux. Et donc, quand on fait des croisements, on a des femelles métis qui sont capables déjà de donner près de 10 litres par jour. Mais on a des mâles. Et ces mâles, on les met à disposition des éleveurs locaux. S'ils veulent développer aussi à leur niveau la production laitière, on va définir un cadre où ils peuvent bénéficier de ces mâles-là. On ne va pas les tuer, manger, parce que c'est vraiment du trésor. Et donc, on est ouvert à ça. Et le projet, dès sa conception, a prévu ce dispositif-là de développer, non seulement de construire l'IFAD, parce que l'IFAD a lui seul ne peut pas développer la filière laitière au Togo, mais il faut développer la filière laitière en développement, la production au niveau de tous les éleveurs.
Justement.
Après les deux IFAD, donc on a allumé deux qui sont collés au lycée technique. On a le premier qui est l'IFAD bâtiment, où on a toutes les filières liées au bâtiment, le gros œuvre, l'électricité. Auquel on a ajouté les environnements connectés. Vous savez, le monde évolue. Donc, ils font là-bas non seulement l'électricité classique, mais l'électricité avec les environnements, la notion, les technologies de connecter. Tout le monde veut aujourd'hui que tous les objets à la maison soient connectés, qu'on puisse les commander à distance. On a intégré donc la dimension des objets connectés à l'électricité.
On va en parler plus de la domologie aujourd'hui.
Voilà, donc c'est la deuxième filière après le gros œuvre. Après, il y a le froid et le conditionnement de l'air, donc la climatisation, aussi bien domestique qu'industrielle. Et puis, on a également des filières de menuiserie moderne pour la charpenterie et pour la fabrication et l'installation des meubles. On a aussi une filière qui est très importante. On forme pour la première fois au Togo des diplômés dans les métiers de finition. Il n'y en avait pas. Et c'est l'un des défis que nous relevons parce qu'il n'y a pas de formateurs dans certains métiers, mais il faut former. Vous prenez le carrelage, les gens apprenaient sur le tas. Vous prenez le staff, les gens apprenaient sur le tas. Vous prenez la peinture, les gens apprenaient sur le tas. Mais aujourd'hui, l'IFAD forme des techniciens en baccalauréat professionnel pour ces métiers de finition.
Il y a une formation professionnelle.
Il y a une formation professionnelle diplômante. Ils sortent avec un baccalauréat professionnel et c'est dans cette même filière qu'ils sortent, qu'ils font la peinture, qu'ils font le carrelage et qu'ils font le staff. Et aujourd'hui, on le résume comme ça, mais vous savez qu'il y a beaucoup de revêtements aujourd'hui. Il y a beaucoup de sortes de revêtements. Et tout ça, on le prend en compte dans la formation, dans le pôle, la filière finition, à l'IFAD de bâtiment. Ce qui est vraiment, je vous dis, c'est vraiment une aubaine. Quand vous allez vous découvrir ce qu'ils sont capables de faire, vous serez vraiment ébahis.
D'accord.
Et voilà. Et le dernier IFAD, c'est celui dédié aux énergies renouvelables. C'est le quatrième. Et là, on forme des techniciens en baccalauréat professionnel au niveau du solaire thermique et du solaire photovoltaïque. À toutes les étapes de ce métier. Le dimensionnement, la pose de panneaux, et puis le maintien. Le métier d'entretien de toutes les installations. Et voilà donc ce qu'on fait. Les IFAD, les quatre IFAD déjà ouverts, deux sont lancés. Un dédié à la logistique et un deuxième dédié à l'élevage. Cette fois-ci à Avetonou. Ah, oui, c'est dans la préfecture d'Agou mais dans la localité d'Avetonou. Il y a un troisième aussi en étude. C'est un deuxième dédié au métier de l'aquaculture à Agomegoulouzou dans le Bamono. Donc voilà aujourd'hui le bilan par rapport au nombre d'IFAD lancés. Nous avons formé au jour d'aujourd'hui plus de 500 apprenants.
Plus de 500
voilà, aujourd'hui, plus de
500. Et est-ce qu'ils sont tous actifs aujourd'hui alors sur
Oui, je vous ai dit, quand je vous parlais de l'installation, il y a les premiers qui sont totalement installés. les autres promotions sont en train d'être... Vous savez, c'est à travers un mécanisme. Un mécanisme qui implique l'État, à travers le faillage, les institutions financières, les microfinances et tout, et les apprenants eux-mêmes pour définir un modèle où ils n'ont pas de l'argent gratuit, comme je vous l'ai dit, la gratuité, ce n'est pas vraiment de l'aide. Et donc, c'est pour construire solidement, après leur sortie, pour construire ce mécanisme d'installation, on est d'accord que ça prend quand même un peu de temps. Et les autres promotions sont donc en instance d'être installées.
Alors, je pense quand même que ce mécanisme mis en place par le gouvernement vient régler surtout le problème de l'inadéquation entre l'emploi et la formation, puisque ça a été toujours un problème décrié partout. Mais je pense qu'avec ça, le gouvernement règle justement ce problème, n'est-ce pas?
Le problème est vraiment réglé. Nous avons organisé le samedi passé une soirée à l'endroit des partenaires de l'AED et des IFAD. Je peux vous envoyer l'élément synthèse des interventions des professionnels, mais ils ont tous applaudi le projet. Ils ont tous remercié le gouvernement, le président du conseil. Ils ont tous salué ce projet-là. Et ils se sont engagés à accompagner ce projet. Parce que nous avons besoin d'accompagnement. Et ce qu'il salue, c'est vraiment l'adéquation entre la formation et l'emploi. Pour la petite histoire, je vous ai dit, chez nous, c'est 50% de formation à l'IFAD, 50% en entreprise. Il arrive qu'on envoie des apprenants de première année à des entreprises qui nous proposent de les embaucher. On leur dit non, ils ne sont qu'en première année. C'est le bac pro, donc c'est 3 ans après le BPC. Même si on a des étudiants avec bac plus 2 qui viennent, on ne refuse pas, on dit minimum BPC. Mais si vous avez besoin d'une reconversion, vous venez quand même. Aujourd'hui, on a résolu le problème, permettez-moi de revenir là-dessus. En plus des formations diplômantes en 3 ans au bac pro, parce qu'aujourd'hui, dans les FAD, on ne forme qu'au bac. On ne formait que pour le bac pro. Mais pour cette rentrée qui arrive, on a mis en œuvre un volet du projet qui était prévu, mais dont on était en train d'étudier la faisabilité. C'est fait maintenant. Au lieu que quelqu'un qui a le bac ou le bac plus 2 vienne faire le bac pro en 3 ans, en recommençant avec les jeunes qui ont le BPC, il était prévu qu'on mette en place des formations certifiantes en 1 an. Aujourd'hui, pour l'ensemble de ces métiers, de ces filières-là dont j'ai parlé, on est prêt, on a fait de l'ingénierie pédagogique, on a défini le contenu de formation et on a lancé ces formations certifiante en 1 an. Donc, au lieu d'aller faire 3 ans aujourd'hui, vous avez un petit frère et tout qui a son bac ou qui a sa licence, il ne va plus reprendre la seconde. Il vient, il fait la formation en 1 an parce qu'il n'a plus besoin de faire le français, l'histoire et tout. Parce que quand on prenait les jeunes, il faut former des citoyens, non seulement qui peuvent exercer le métier, mais qui soient des citoyens accomplis.
Et justement.
Voilà. Donc, il n'y avait pas que le métier. On les formait aussi pour des connaissances générales. Ce qui ne sera pas le cas pour les bacheliers. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus, la formation certifiante est ouverte en 1 an pour tous ces métiers que j'ai déjà cités et dont je pourrais vous laisser la liste après.
D'accord.
Pour d'éventuelles communications.
Il n'y a pas de souci. Alors, Gabin, oui. C'est vrai que je vous ai vu suivre M. Nassini avec tout intérêt. Et c'est vrai que on le disait, avec notre système éducatif, on se dit, il n'y a pas de pratique alors dans ces systèmes éducatifs où vous terminez peut-être votre licence ou votre master et maintenant vous vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce que vous savez faire? Mais là, c'est pour régler. Ces IFAD sont là pour régler justement ce problème.
Effectivement, je pense que c'est une très bonne chose que ces IFAD là soient créés, parce que aujourd'hui on met sur le marché des citoyens qui sont prêts après formation dans les instituts. Les citoyens sortent pratiquement prêts, alors que bon, avant dans les universités classiques ou bien dans nos lycées classiques, tu sors et c'est maintenant que tu es en train de chercher du stage pour te faire performer. Mais maintenant, je pense que les IFAD sont là pour résoudre ces problèmes là. C'est vrai que c'est dans un certain domaine donné, mais je pense que c'est déjà une très bonne chose et peut-être qu'après ça va s'étendre vers d'autres domaines pour former véritablement des citoyens assez accomplis dans ce sens-là, parce que la plupart du temps, vous voyez des tâcherons, des gens qui ont appris le métier sur l'État, mais après ils ont du mal à faire un certain nombre de choses. Moi, je me rappelle très bien le nombre de fois que des maçons, des charpentiers m'ont approché pour que j'arrive à leur faire un devis par rapport à un travail que eux ils vont exécuter. Vous voyez un peu. Donc à un moment donné, je pense que c'est déjà très bien de les former, de les récupérer très tôt et de former ces citoyens-là. Et après la formation, ils sont même prêts à opérer directement sur le marché. Ils ne vont pas faire un stage quelque part et autres là. Donc ils font en même temps la théorie et la pratique. Mais j'ai deux questions à poser à monsieur. Premièrement, par rapport aux frais de formation, j'ai appris que c'est à 400 000, c'est ce que j'ai appris. Je pense que c'est un peu trop cher parce que c'est l'État qui l'a institué. Et donc, bon, 400 000 pour...
C'est cher par rapport à la bourse.
Par rapport à la bourse du Togolais, peut-être que certains vont avoir la volonté d'aller dans ces IFAD là, mais faute de moyens, bon, ils vont préférer payer 100 000 à quelqu'un, à un patron quelque part, pour que bon, on lui apprenne le métier, et ça fait quand même une formation au rabais, si je peux le dire ainsi. Et secondo, quel accompagnement vous faites après la formation à ces étudiants là qui sont mis sur le marché?
D'accord, monsieur Nassini.
Mais je vous remercie. Cette question de c'est cher, elle revient tout le temps et je pense que c'est comme dit souvent l'adage, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Vous savez, quand on a mis en place les IFAD, on a fait une étude du coût, du coût de la formation, et le coût de la formation sans subvention de l'État, pour la phase formation bien sûr, pas pour la phase d'installation, parce qu'il disait qu'il n'y a pas de subvention. Chaque apprenant devait payer pour les trois années, pour chaque année, 1 200 000.
Pour chaque année
1 200 000 pour être formé dans les IFAD. Quand vous allez, quand vous voyez un IFAD, vous avez un cadre moderne, entièrement connecté. Les classes sont modernes, avec des vidéoprojecteurs interactifs connectés eux-mêmes, avec plein de logiciels. Pour la phase que nous appelons théorique, en réalité, elle est théorique, mais bourrée de professionnalisation. Parce que vous avez beaucoup de logiciels pour les expérimentations. L'expérimentation avec les logiciels, c'est illimité. Oui. Pour de vrai, quand vous faites une expérimentation, vous consommez des matériaux. Oui. Voilà. Donc, il y a plein de logiciels d'expérimentation théorique. Après, il y a les ateliers. Quand vous allez, vous voyez des machines et tout. Mm-hmm. Pour les IFAD agricoles, vous voyez de grandes fermes. Pour l'IFAD aquaculture, vous avez un barrage de 4 hectares, en plus des étangs, une unité de transformation, une closerie. Il y a le logement dans les IFAD agricoles. Il y a le logement. Et tout ça, quand on a étudié, c'est vraiment cher. Et l'État a subventionné les deux tiers. C'est pour ça que les apprenants ne paient que 400. Voilà. Et pour même encourager les premières promotions, la cantine était intégrée gratuitement. Et tenez-vous bien, quand vous prenez la cantine, on a estimé le coût de ce que consommait un apprenant par jour. On a estimé ça à 1 500. Et dans l'année, ce que chaque apprenant consommait comme cantine, c'est 450 000. Mais il paye 400. Et les gens disaient que c'est cher. Mais il consommait 450 000, il était logé et il était formé. Et les gens disaient que c'est cher. Donc c'est très, très, très relatif.
D'accord.
Okay. Et voilà, donc c'est pas cher. Mais 400 000, je suis d'accord avec vous que c'est toujours difficile pour les apprenants. Parce que quand vous prenez, ce n'est pas le...
Les apprenants,
la plupart du temps,
les parents.
Il faut faire quelquefois le milieu rural pour avoir le goût pour l'élevage, l'aquaculture et tout. Donc c'est vrai que ce n'est pas les plus nantis généralement.
Oui, effectivement.
Et on est conscient que c'est cher. C'est à cela qu'était destinée notre soirée des partenaires le samedi passé, pour demander que les gens essayent d'accompagner des jeunes qui sont autour d'eux, qui sont très motivés, mais qui n'ont pas de moyens. Et c'est un cri de cœur à l'endroit des ONG, et des associations patronales, syndicales, et même des responsables d'orphelinats. Parce qu'il n'y a pas meilleur cadeau à un orphelin que de l'inscrire pour qu'à la sortie, il ait un métier. Dans la main. Donc nous sommes conscients, même si c'était 30 000, je parie que ce serait difficile pour certains. Oui, voilà. Et donc, c'est pour ça que nous avons poussé ce cri de demandant aux uns et aux autres d'accompagner vraiment ce projet de l'État.
D'accord. Maintenant, la deuxième question, c'est par rapport à l'accompagnement que vous faites à ces étudiants ou à ces apprenants après leur formation.
Je vous remercie beaucoup. Je vais vous dire, l'accompagnement, il est complet. C'est un pôle même du projet. Je le disais au début, c'est vraiment un pôle important du projet parce que l'objectif... Vous savez ce que nous disons, nous, au DG des IFAD, nous, l'AED, je vous ai dit, c'est nous qui créons les IFAD et c'est nous qui les pilotons. Nous sommes les responsables des IFAD. Et à la tête de chaque IFAD, on met un DG. Mm-hmm. Et ce que nous, nous disons au DG, nous disons que leur objectif, eux, c'est de nous dire, il y a tel nombre de bacheliers. Ils seront contents. Les bacheliers ont une bonne formation, ils ont des compétences. Et eux, ils ont fait leur job. Mais la mission, nous, les objectifs, la jauge, c'est par rapport à laquelle nous mesurons, c'est le taux d'insertion. Mm-hmm. Nous, c'est le taux d'insertion. C'est comme ça que le projet est conçu. Et c'est pour ça que je vous dis, les premiers qui sont sortis, le chef de l'État est allé en personne leur délivrer leur diplôme. Vous voyez, c'est un signe, hein? Un signe très fort. Il allait leur donner le diplôme personnellement et il a pris des dispositions pour qu'un mécanisme soit mis en place à partir des premiers. Les premiers aujourd'hui sont totalement installés. Il y a la première de cette promotion, on l'a envoyée en France. Elle est actuellement en train de continuer ses études en France, en aquaculture, ce qui est déjà aussi un symbole. Et nous continuons la même chose pour les autres promotions.
D'accord.
Mais qui ne sont pas encore à ce jour installées. Et cela étant, ils ne sont pas encore installés, mais on a pris des dispositions pour que ceux-là qui sont sortis, qui ne sont pas encore installés, soient dans des fermes en train de travailler.
Mmh, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je sais que les autres confrères ont aussi des questions et tout, mais nous allons, pour ce qui concerne alors les questions, nous allons en arrêter là, puisque notre temps évolue. On va revenir là-dessus, peut-être au cours alors de nos prochaines émissions, et au-delà même d'ailleurs de cela, je sais que nous allons donner la parole, quand il va sonner midi tout de suite, nous allons donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils auront des questions pour vous, Monsieur Nassini, et donc vous restez avec nous. Ils auront certainement des questions à vous poser et je sais que vous aurez toujours les éléments de réponse aussi à ces différentes questions. Merci, hein, Monsieur Nassini.
Je vous remercie, Pascal, mais je vais vraiment dire aux auditeurs que les inscriptions dans les IFAD se poursuivent.
Tout à fait. Puisque nous allons revenir sur la question des inscriptions même d'ailleurs dans un instant. Voilà. Alors, chers confrères, nous sommes rejoints même par notre confrère Germain Pouli. Germain, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs du Canal FM. Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Grâce à Dieu, ça va.
Grâce à Dieu, ça va. Alors, je parlais alors de ce sujet en début d'émission, c'est-à-dire dans mes mots introductifs, et c'est par rapport au niveau alors de la frontière Togo-Ghana, avec quelques passages qui ont été fermés, et le ministère de la Sécurité, justement, a fait sortir le communiqué, c'était le mardi. Des journaux sont revenus sur ce sujet. Le journal Le Dialogue revient sur le sujet. Le journal écrit: frontière Togo-Ghana, seul Ségbé et Aflao restent ouvertes aux véhicules. Et justement, dans le communiqué, le ministre a donné les raisons pour lesquelles alors ces passages sont fermés. Alors, Germain, est-ce que vous avez suivi alors ce communiqué, vous avez écouté aussi les raisons sur lesquelles passages alors sont fermés, est-ce que vous avez été convaincu?
Vous savez que sur la question sécuritaire, quand les spécialistes en disent des choses, il faut leur faire confiance. Et surtout que nous avons un ministère qui a fait ses preuves. À la tête de ce ministère se sont succédés des officiers supérieurs qui connaissent bien leur job. Et on a vu un peu comment c'est fait de façon plus ou moins scientifique avec les bilans qui sont faits régulièrement sur les questions sécuritaires. Tous les 6 mois, le ministère fait un bilan. Il parle des accidents, mais il parle aussi des autres actes illicites, des braquages et tout ce qui se passe.
Et de la criminalité.
Voilà, de la criminalité. Donc là, le ministère sort un communiqué sur la criminalité transfrontalière. Donc explique la situation de tous les trafics illicites qui se font, y compris celui des êtres humains, les armes et tout cela. Et donc ça se fait par des motos volées, par des voitures volées. Et donc le ministère a décidé de fermer toutes les brèches clandestines. Vous savez que nos frontières sont très poreuses. Il n'y a pas une ligne visible. Tout de suite, vous allez vers Casablanca, à Tikoumé, là, vous traversez la route, on vous dit vous êtes au Ghana. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes au Ghana, mais effectivement, vous êtes au Ghana. Et donc, il n'y a pas de mur, et il n'y a rien. Et partout, la mauvaise chose peut se passer. Donc, sur la base de ce bilan, le ministère décide donc de ne autoriser que 8 points de passage pour les piétons, et puis les passages qui sont connus, les frontières Segbe et Aflao pour tous les véhicules, les tricycles et les motos, pour mieux contrôler. Et je pense que c'est une mesure pour protéger les citoyens. Ils savent un peu, c'est leur job. Ils savent quelles mesures prendre, ils savent quels dispositifs ils ont mis en place pour essayer de contrer toutes ces menaces-là qui pèsent sur la capitale. Et notre capitale qui a une situation aussi assez particulière. C'est l'une des rares qui est pratiquement à la frontière avec un autre pays, et donc avec tout ce que ça représente comme vulnérabilité sur le plan sécuritaire. Donc, une fois que ces raisons ont été données, une fois où le gouvernement appelle les populations à collaborer à travers un numéro vert aussi qui a été donné.
10-14.
Voilà, donc c'est dire que c'est quelque chose d'assez important, c'est sérieux. Et vous savez aussi, nos gendarmes et nos policiers, de temps en temps, ils font des exploits avec le démantèlement des réseaux, donc de malfaiteurs, et ils le font avec la collaboration des populations. Et je pense que c'est dans ce sens que le communiqué est sorti. On ne peut que saluer cette transparence-là. C'est vrai que peut-être tout n'a pas été dit pour ne pas faire paniquer la population. Mais en même temps, c'est une sonnette d'alarme qui est tirée, donc il faut prendre ça au sérieux et contribuer à notre propre sécurité.
D'accord. Ok. Gabin, c'est vrai que les autorités citent notamment le trafic de stupéfiants, de produits prohibés, la traite des êtres humains, la contrebande de carburant, gaz, médicaments ou denrées, ainsi que la circulation d'armes, de munitions et de véhicules volés utilisés à des fins criminelles. Je me souviens même d'ailleurs avoir été victime même d'ailleurs du vol de ma moto, et qui a été retrouvée même au Ghana, bien sûr. Et là, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il y a quand même du sérieux dans cette affaire.
C'est véritablement du sérieux. J'aurais aimé que ces mesures-là soient appliquées pratiquement à toutes les frontières du Togo, frontières de l'Est, de l'Ouest et même du Nord. Parce que, vous savez, on a toujours parlé de la porosité de nos frontières. Et moi, la plupart du temps, bon, quand je vais à Kbalimé, quand je vais aller prendre des produits pour mes animaux, je suis un peu choqué par cette facilité de certains véhicules à rentrer dans le territoire togolais. Alors qu'il y a des barrages, le chauffeur vient, il tend la main, et puis bon, le douanier, il prend, le monsieur, il passe sans même vérifier ce que la personne a dans son véhicule. Je pense qu'il faut aller vers une certaine rigidité au niveau de nos frontières et permettre à ce que, bon, si tu ne te reproches d'absolument rien, c'est vrai que certaines personnes se plaignent, mais si tu ne te reproches de rien, alors, bon, personne ne t'empêche de rentrer au Togo ou bien d'aller de l'autre côté de la frontière. Le plus important, c'est de présenter ta carte d'identité ou bien ta pièce d'identité, de respecter les normes, et puis on te laisse passer. Moi, je suivais une émission interactive hier où des auditeurs ont appelé qu'ils sont de l'autre côté de la frontière, et même leurs enfants, ils viennent à l'école ici et vice versa, mais ils se sont pas plaints. Ils disent non, ils traversent normalement la frontière, ils présentent leur pièce d'identité, et puis on les laisse passer. Donc je pense que c'est pour protéger quand même les citoyens, parce que nous sommes à l'ère du terrorisme et de l'extrémisme violent aussi, avec le trafic des stupéfiants et tout. Il faut faire véritablement très attention pour ne pas quand même jeter la population à l'abordage comme ça. Donc pour moi, je pense que c'est quand même une très bonne mesure. La communication est faite, c'est vrai, il y a toujours des non-dits quand le gouvernement parle, mais parfois c'est aussi pour protéger la population, pour ne pas faire paniquer la population. Donc moi je pense que c'est déjà une très bonne chose. Pour ceux qui traversent les bit 9, Bitou et autres là, ils connaissent véritablement ce qu'on appelle la porosité de nos frontières, et je pense qu'il faut sursoir à cela. Personne ne parle de fermeture de frontières. C'est une certaine mesure qui a été prise pour mieux contrôler nos frontières, pour ne pas que bon tout le monde rentre dans le pays et sort comme il veut. Je pense que d'autres pays le font déjà, et si c'est arrivé chez nous, c'est parce que c'est une très bonne mesure pour protéger la population.
Oui, Fibre, c'est vrai que certains observateurs évoquent le fait qu'il y a beaucoup de Togolais qui se trouvent de l'autre côté de la frontière et qui font justement cette navette chaque jour entre le Togo et le Ghana, et aussi des élèves, puisque la rentrée c'est dans quelques semaines, la rentrée justement, il y a des élèves quand même qui viennent à l'école au Togo et également vice versa. Alors finalement, est-ce que peut-être les raisons sont ailleurs par rapport à tout ce que le gouvernement a déjà évoqué sur la criminalité et tout?
Non, je ne pense pas que les raisons soient ailleurs. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est mieux protéger la population. Vous savez, nous sommes dans un monde où l'intelligence va crescendo. L'homme doté d'intelligence, et l'intelligence c'est le bien et le mal. Au moment où nous réfléchissons à bien faire, il y a d'autres qui réfléchissent aussi à bien faire dans l'autre domaine, même si c'est au sens négatif. Les meilleurs voleurs, de par le passé on avait eu des voleurs, mais aujourd'hui à l'ère du numérique, à l'ère de l'intelligence beaucoup plus développée, on a des voleurs qui sont beaucoup plus fins, des criminels qui sont beaucoup plus fins. Ça veut dire que autant la population s'agrandit, autant on aura plus de voleurs, on aura plus de criminels. Les gens réfléchissent, les gens veulent mal faire, les gens veulent faire du mal, les gens veulent voler, les gens veulent tuer, ainsi de suite. Donc par rapport à ces statistiques, il faut que les États réfléchissent à comment s'organiser pour mieux protéger les populations. Et je pense que le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile du Togo se retrouve aujourd'hui dans cette dynamique. Le drame pour nous, c'est que nous avons des frontières poreuses. La meilleure des choses qu'on pourrait souhaiter, c'est qu'on ferme toutes ces frontières poreuses, qu'on ait une seule frontière légale. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut arriver à ce niveau? Mais si on n'arrive pas à fermer toutes les frontières poreuses, mais il faut qu'on s'attende toujours à avoir de petits soucis sur le plan de la sécurité. On aura toujours cette contrebande, on aura toujours de petits voleurs, on aura toujours des gens qui vont toujours voler les motos ici et aller les vendre au Ghana. La sécurité avec le fraude de l'eau de sécurité, bon, elles vont faire ce qu'elles peuvent faire, mais on aura toujours des soucis. Moi, je réfléchis à quelque chose tout à l'heure. Si on est arrivé à ce stade, peut-être c'est un échec au niveau de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO prône la libre circulation des personnes et des biens. Ou soit, on réfléchit sur la question au niveau de la CEDEAO pour que, dans la zone CEDEAO, qu'on n'ait plus de frontières. Donc, quand on n'a plus de frontières, tout est libre, comme ça, je pense que la sécurité va se définir autrement. Mais du moment où on se retrouve ici, ce que le gouvernement est en train de faire, c'est bien, mais je ne pense pas que ça puisse véritablement régler le problème. On forme du moment où il y aura des frontières poreuses, on aura toujours des soucis en termes de sécurité. Vous savez, le problème n'est pas particulier au Togo. Vous avez vu ce qui se passe à Washington avec Trump. Il a déployé des militaires dans la ville parce qu'il dit que le taux de criminalité est en train d'aller crescendo. Donc, c'est là où les gens le tasse de dictateurs. Mais quoi qu'on puisse dire, le Togo n'est pas un pays où les pays les plus criminels au monde, le Togo n'en fait pas partie. Quand on veut parler des pays où le taux de criminalité a atteint un pic, mais vous allez voir les grandes villes, vous allez voir Johannesburg, vous allez voir l'Afrique du Sud, vous allez voir le Nigeria, vous allez voir même le Ghana. Mais du moment où nous sommes en train d'évoluer, il faudrait réfléchir encore beaucoup plus à comment réorganiser la sécurité pour pouvoir mieux protéger la population.
D'accord. Oui, les raisons données par le gouvernement ou le ministère de la Sécurité, nous l'avons tous ensemble suivi. Mais est-ce que pour vous, déjà pour ces raisons, ça donne plus alors de sécurité alors aux citoyens? C'est pour cela que cette décision ou ces mesures été prise?
Oui, je pense que c'est une bonne chose et les raisons sont très valables et c'est des démarches à saluer. Mais moi, je voudrais attaquer deux points supplémentaires par rapport à ce que le gouvernement a déjà fait. Le premier point, c'est la responsabilité des agents de sécurité. De par les deux frontières, ici, je pense que nous sommes en train de parler de la frontière Togo-Bénin, Togo-Ghana. Ça vaut également pour les autres frontières. Les agents de sécurité côtoient là-bas les délinquants, les trafiquants que leurs supérieurs sont en train de dénoncer aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Ils pratiquent là-bas...
Et des fois, c'est bonjour à la corruption.
Voilà, ils pratiquent là-bas des raquettes. Ok, tout le monde sait. Il suffit que la population, les agences, les associations, les départements de la CEDEAO vont là-bas faire des enquêtes. Ils vont comprendre. Ils le savent, puisqu'il y a plusieurs associations qui s'occupent de ça. Ils ont fait plusieurs... et rapport. Donc, c'est l'échec de la CEDEAO. Voilà. Donc, le premier point, il faut des agents responsables. Moi, ma vision aussi, c'est la facilité de la mobilité des populations. Et même aller jusqu'à ce qu'on appelle le free border, sans mur, sans grillage. Sans mur, sans grillage, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la sécurité.
Mais là, il faudrait quand même qu'on redéfinisse la sécurité telle que...
Justement, parce que aujourd'hui, quand tu vas là-bas et tu as été volé, d'un côté, tu te plains. On te dit que moi je suis togolais. Si je dois me plaindre, je vais me plaindre logiquement chez le policier togolais. Quand je vais chez le policier togolais, je me plains. Il me dit non, ça c'est au Ghana, qu'ils ne peuvent pas intervenir. Quand le Ghanéen, quand nous sommes en voiture avec eux, ils disent que nous aussi on leur fait subir.
On leur fait subir la même chose.
Quand le Ghanéen aussi vient se plaindre au Ghanéen, le Ghanéen lui dit mais ça c'est le Togo, je ne peux rien. Donc, il y a problème. Maintenant, par rapport à la mobilité. Tu prends ton passeport, tu veux aller là-bas, on dit que tu dois payer premier tampon. Premier tampon. Ça veut dire quoi? Premier tampon, le prix est différent. Deuxième tampon, le prix est différent. Vous voyez? Donc, il y a un problème de mobilité. La sécurité, là, les agents qui sont déployés là-bas, eux-mêmes sont, autant pour moi, des acteurs de l'insécurité. Donc, il va falloir qu'on voit ça sérieusement. Les raquettes, les tracasseries et la complicité avec ces contrebandiers. La complicité avec ces contrebandiers. Donc, une fois, je suis arrivé du Ghana à 10 heures, mais j'ai failli me faire violenter, arnaquer. Et c'est à deux pas du policier. Il est ici, il sait, il est collé. Il est collé. Il sait que là, ça, c'est un gars là qui veut, c'est pas qui va détrousser le citoyen, le Nigérien, le Béninois qui est en train de, l'Ivoirien qui est de passage. Maintenant, où la personne va trouver les 200 000 qui lui ont été volés pour retourner au village, pour retourner dans son pays. Donc, ça, c'est un problème très simple que nos dirigeants au niveau de la CEDEAO peuvent résoudre. Mais ils refusent de résoudre. Même avec les chefferies, parce que c'est la même famille. C'est la même famille, et c'est la même famille de chefferies, de part et d'autre.
Et pourtant, on peut aller de la CEDEAO, on parle de la circulation des biens, des personnes. Et n'est-ce pas, Germain? Au niveau de la CEDEAO, justement, on parle alors de la libre circulation et des personnes et des biens.
Oui, mais ça a été un cas difficile à gérer. Donc, la libre circulation n'a jamais été assez réelle. Par endroit, au niveau des frontières, les gens ont envie de se faire un peu d'argent, donc complique un peu la circulation. Mais je crois que ce n'est pas de ça que le ministère parle. Ça, c'est le petit truc. On parle de trafic d'armes, de munitions.
De la sécurité interne.
Oui, oui, mais à la frontière, quand vous prenez de l'argent, on sait à peu près combien on te prend. Bon, il y a les petits voleurs aussi qui font aussi leur business. Mais c'est ça. Mais
c'est pas du business. C'est pas du business. C'est pas du business.
Non, mais souvent, vous n'avez pas tué les gens. Souvent, vous n'avez pas de reçu quand vous dites.
Non, mais ce n'est pas ça le problème du communiqué. Au contraire, le communiqué dit aux gens de passer par la frontière. Ça veut dire que c'est moins grave là-bas. Ça, c'est le petit truc. Les citoyens aussi ont un rôle à jouer. Moi, j'ai écouté quelqu'un nous dire un jour de refuser de donner de l'argent. C'est parce qu'on donne aussi que les gens nous en prennent. Moi, j'ai fait une fois un voyage en voiture pour aller pendant la Covid pour aller à Abidjan. Mais attends, vous prenez la frontière d'Afla, vous donnez 15 000 aux chauffeurs du bus juste pour distribuer de l'argent. Surtout au Ghana, au Togo, ça va encore. Pour distribuer de l'argent à des postes du Ghana jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire. C'est extraordinaire. Et là encore, à l'époque, il n'y a pas moyen de passer. Il faut prendre la pirogue là pour traverser. Vous payez 25 000 pour la pirogue. Parfois, c'est des policiers qui vous prennent de la frontière du Ghana. Ça, c'est pas de ça. Moi, je pense que le problème dont on parle, c'est ce qui rentre par les brèches clandestines. C'est-à-dire qu'il y a des petits chemins par lesquels les voitures, les tricycles, les motos passent avec des choses. À la frontière, au moins, quand vous transportez quelque chose d'illicite, parfois, on peut le détecter. Il y a des chiens, parfois, qui peuvent détecter, parfois, votre comportement. Il y a des scanners, par moment. Parfois, ils aussi ont leur stratégie. Quand on vous regarde, vous voyez qu'on interpelle des gens pour dire, mais qu'est-ce que vous avez dans le sac et tout ça. Mais il ne peut pas le faire pour tout le monde. Vous voyez les titans qu'on appelle les acquis, tout ça qui transporte. Mais on ne peut pas déballer toutes ces marchandises chaque jour pour vérifier. Là encore, c'est un peu contrôlable. Mais je pense qu'on parle du trafic qui se fait à travers les brèches clandestines. Ça veut dire que sur toute la frontière, à tout moment, pas du moment, il n'y a pas de sécurité à chaque mètre carré. Les gens peuvent toujours passer parce qu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barbelé, il n'y a rien. Donc, les gens passent avec pas mal de choses. Votre moto a été volée, mais ce n'est pas par la frontière qu'ils sont passés. Les voitures volées, ils ne vont pas passer
par la frontière. Non, pas par la frontière officielle, bien sûr.
Oui, parce que là, on vérifie les papiers. Donc, ils ont des chemins par lesquels ils passent. Donc, c'est ces brèches-là qu'on veut fermer. Moi, j'ai un collaborateur qui est au Ghana, qui devait venir travailler ce matin. Il me dit, ah, on a fermé. Je ne peux pas aller jusqu'à tel endroit pour venir. Il a peut-être raison, mais l'État veut contrôler les brèches clandestines. On en a autorisé.
Et c'est justement le rôle de l'État.
Oui, c'est ça le rôle de l'État. Non, je pense qu'il faut, surtout en ce qui concerne la sécurité, il faut aider l'État. Parce que demain, quand ça va péter ici, on va dire, mais dans quelle ville on est, tout rentre facilement et ça nous cause des problèmes.
D'accord.
Donc, merci, on a dit, c'est Sigbi à Flow. C'est vrai, là-bas, il y a toujours les tracasseries habituelles. Ça va pas, mais le petit chemin là où les gens passent par des choses inimaginables, je crois que il faut aider le gouvernement à régler. Ça va embêter énormément les riverains. Il y a des gens qui vivent au Ghana, qui travaillent au Togo chaque jour. Il y en a qui, c'est compliqué. Je pense que c'est pour ça que le gouvernement a quand même fait l'exception de permettre passage où on peut traverser. C'est vrai que ça va faire ceux qui avaient l'habitude d'utiliser des petits chemins.
Merci beaucoup, Jamais. C'est vrai que nous parlons depuis du gouvernement, mais exactement, on ne sait pas exactement de quel gouvernement, parce que le gouvernement n'est pas encore mis en place. Oui, dans cette semaine, nous avons appris même d'ailleurs que nous avons appris, j'allais dire, la nomination de Stanislas Baba, qui est nommé secrétaire général alors du gouvernement. Le tonnerre, c'est-à-dire Tom Nyamsa, et le journal, bien sûr, revient sur le sujet. Le journal écrit « Premier gouvernement de la 5e République, en téléchargement, 3 points de suspension, Stanislas Baba nommé secrétaire général du gouvernement ». Alors, Gabin, on a justement le droit de se poser cette question. De quel gouvernement parle-t-on si on nomme un secrétaire général à l'ordre d'un gouvernement?
Un secrétaire général au rang de ministre, le premier ministre nommé par le président du conseil dans la 5e République. Donc on peut dire que bon, le gouvernement est en gestation. Peut-être d'ici une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on aura le gouvernement, parce que pratiquement ça fait 4 mois que le Togo est rentré dans la 5e République, mais jusque-là, on n'a pas encore le premier gouvernement de la 5e République. C'est toujours le gouvernement de la 4e République qui ne continue pas écouler les affaires courantes. Et quand on parle des affaires courantes, ça veut dire qu'ils n'ont pas la possibilité d'implémenter certains projets. Et donc, on peut dire que c'est un peu l'État, le fonctionnement de l'État qui est amoindri. Et donc, je pense que on doit aller beaucoup plus vite, par la formation du gouvernement. Maintenant, à la nomination du ministre Baba, bon, on peut dire c'est une bonne nouvelle, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît depuis. Il travaillait depuis, moi j'écoutais son nom depuis l'époque Yadema. Et bon, peut-être que le chef de l'État, ben, le président du conseil, a voulu retourner à ses anciens amours, c'est-à-dire au classique du RPT. C'est ce que moi j'ai compris. C'est un message qu'il a envoyé. Il a relevé de ses fonctions.
Mais si tant est qu'on veut faire avec les mêmes personnes, est-ce que c'est difficile quand même de reconduire?
Peut-être que bon, il va faire des jeux de chaises musicales. Certains vont occuper ça. Vous avez vu, Baba, bon, c'était le conseiller à la sécurité maritime quand même. Il a remplacé Monsieur Christian Trimois. Bon, vous allez voir que Monsieur Christian Trimois va revenir dans le gouvernement à un autre poste. Bon, on va voir ce genre de choses. Ce qui est sûr, il y aura pas assez de chamboulement. On verra toujours les mêmes personnes, mais peut-être à différents postes et autres là. Donc moi, la nomination, c'est une bonne chose, mais au même moment, un non-événement, parce que c'est quelque chose. On a besoin d'un gouvernement. On ne peut pas rentrer dans une nouvelle république comme ça et ne pas avoir de gouvernement pour implémenter les projets de développement. On a adopté un budget depuis, et jusque-là, on n'arrive pas à exécuter le budget. Moi, ça me pose problème.
D'accord. Firmin, est-ce que déjà avec ce retard accusé dans la formation alors du gouvernement, est-ce qu'on peut s'attendre quand même à une surprise?
Non, surprise, non, mais je pense qu'il faut respecter l'architecture du gouvernement. Former un gouvernement, c'est une tradition. La tradition, il faut la respecter. La tradition, c'est l'expérience, la compétence, les amis de lycée, les hommes de confiance. C'est tout ça qui forme un gouvernement. Donc, un gouvernement, il ne faut pas dire que, bon, on va pas s'attendre à ce que le président du conseil.
Est-ce que c'est au Togo seulement ou bien ailleurs?
Non, ailleurs. C'est des amis. Sarkozy a formé son gouvernement avec ses amis de lycée, les Brice Hortefeux, par exemple. Les Juppé qui connaissaient depuis plus de 30 ans à l'époque. Donc, il y a des gens peut-être dont tu ne peux jamais te débarrasser parce qu'ils ont une certaine expérience. Peut-être les Stanis Baba, ils ont fait il y a des mois. Ils ont une certaine expérience. Vous savez, moi je me dis, il y a deux choses. La première chose, Fonia Singbe vient de faire 20 ans au pouvoir et il y a assez de critiques. Des gens le critiquent. Et je me dis qu'ils se disent, pour former un gouvernement, mais le gouvernement que je vais former doit véritablement répondre aux exigences, aux aspirations de la population. Et la deuxième chose que je voudrais faire observer, c'est que ce gouvernement-là doit être un gouvernement qui ne va pas trahir. Parce que ce gouvernement-là doit durer 6 ans. les prochaines élections qu'on fera maintenant au Togo, il va falloir s'attendre à 6 ans. Donc, il va falloir avoir vraiment solide. Nous sommes dans un système de régime parlementaire. C'est un régime, quelquefois, qui est instable. Donc, il faut trouver les garanties pour pouvoir le rendre beaucoup plus stable. La première stabilité, c'est que nous avons un président du conseil qui ne peut jamais être révoqué par le président de la République. Nous avons déjà une assemblée qui ne peut jamais être dissoute par le président de la République. C'est la première garantie en termes de stabilité. Mais la seconde stabilité, il va falloir avoir des hommes qu'il faut pour ne pas avoir des problèmes. Vous savez ce qui a tué François Hollande? C'est l'affaire Jérôme Cahuzac. C'est le ministre du budget de François Hollande. Il avait formé un gouvernement de transparents, des gens qui n'avaient pas de soucis en termes de corruption. Mais Jérôme Cahuzac avait caché son compte en Suisse. Le jour où les médias l'ont découvert, on a traité François Hollande de président corrompu, de celui-là qui n'est pas un responsable. Et c'est ça qui a tué son mandat. Et c'est à partir de ce moment qu'il a commencé à dégringoler en termes de sondage. Donc le gouvernement que Fonsi va former, il va falloir qu'il ait des gens sûrs qui ne pourraient pas le trahir. Des gens qui pourraient véritablement répondre aux exigences de la population. C'est-à-dire, Baba, il connaît la période d'Yadema, il connaît la période de Fort. Je pense que c'est un homme qui a une certaine expérience, une certaine maturité. Il pourrait vraiment aider dans cette 5e République.
Et là, vous n'êtes pas dans le secret de Dieu, c'est vrai. Mais est-ce que c'est si difficile de former un gouvernement?
Naturellement, c'est difficile de former un gouvernement, surtout quand vous avez duré au pouvoir. Surtout quand il y a un régime. Vous vous rappelez? Et vous rappelez que, à une certaine époque, quand le président de la République, aujourd'hui président du Conseil, avait voulu prendre de nouvelles têtes à plusieurs reprises, il y a eu un petit comité des sages de UNI qui a fait irruption et qui, après aussi, ont commencé par avoir plus d'oreilles, d'écoute au niveau du président de la République. Donc, quand il y a un système, vous devez satisfaire les anciens, les nouveaux, et les alliés aussi qui viennent d'un peu partout. Ouais, il faut féliciter quand même celui qui a été nommé. Il faut le féliciter. C'est un technocrate, malheureusement. Sa longévité. Il était ministre en 90. Ça fait 30 ans. Ou bien plus de 30 ans.
Plus de 30 ans.
Ministre en 90. Plus de 30 40 ans. Oui. C'est grave. C'est grave. Maintenant, son âge. J'ai déjà dit qu'il est bon, hein. Techniquement, il est bon, il a la compétence.
Mais justement, c'est si là bon, si
c'est
bon,
parce qu'il faut. Les enjeux du monde moderne aujourd'hui, son âge, il ne peut plus être dynamique. Dans ce régime-là parlementaire, il y a le président qui manifestement sera parmi les plus jeunes, mais le président du Conseil, le président de la République, nouvelle version, est quand même assez âgé. Voilà, un ministre, la cheville ouvrière du gouvernement, qui sera autour de 70 ans plus. Donc, lui aussi, c'est déjà une personne diminuée au niveau de l'énergie. Et voilà, quelle vision veut transmettre à partir de ça. Donc, je pense que on peut tenter de dire que peut-être le président est coincé, mais je suis sûr qu'il a l'expérience nécessaire pour pouvoir se départir de ces choses. Le Bénin, je vais terminer par là, le Bénin a donné un bon exemple. Face à Bio Tchané, face aux alliés de grand poids, le président a su quand même les sensibiliser pour qu'ils prennent un jeune pour conduire le Bénin
vers Romuald Ouadani.
Voilà, pour conduire le Bénin vers de nouvelles horizons. Donc, je pense que ce choix, même si l'expérience y est, c'est un choix qui m'a déçu.
D'accord. Et oui, j'aimerais, finalement, pour ce qui concerne la formation du gouvernement, oui, aujourd'hui, les Togolais sont dans l'attente alors de ce premier gouvernement de la 5e République. Et est-ce que c'est parce que les compétences en manquent ou bien qu'est-ce qui se passe concrètement?
Bon, moi, quand j'entends les gens parler du gouvernement, j'ai dans l'impression que le pays est vraiment bloqué parce qu'il n'y a pas un nouveau gouvernement. Gabin vient de dire que le budget ne s'exécute pas parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Ce n'est pas vrai. Mais le ministre, c'est à la tête d'un cabinet. Est-ce que les cabinets fonctionnent? Nous avons là un membre du gouvernement qui est là. Il n'est pas ministre. Il est d'un ministère. Il travaille toujours. Donc, le ministère travaille. Les hommes politiques qui sont à la tête ne sont pas nommés. Maintenant, nous sommes dans un contexte où on a envie que le gouvernement reflète la nouveauté constitutionnelle. C'est-à-dire, on a envie de voir si la 5e République sera différente de la 4e en termes de personnalité qui les incarne. Mais il ne faut pas oublier que c'est le même parti qui a remporté des élections et qui a fait d'abord les réformes parce qu'il était majoritaire à l'Assemblée et qui a encore remporté les dernières élections. Donc, qui a le droit de former un gouvernement composé des gens d'unir? On ne va pas s'attendre à des miracles. Maintenant, est-ce que on va renouveler le personnel? Est-ce qu'on va ouvrir aux, comme vous l'avez dit, à certains partenaires ou même à l'opposition, comme on l'a fait au niveau du Sénat et tout ça? Donc, c'est peut-être ce à quoi on peut s'attendre, mais si c'est pour le personnel politique, il ne faut pas attendre des miracles. On ne va pas dire de remplacer des gens, soit parce qu'ils ont fait 10 ans. Mais non, on a quand même besoin des gens d'expérience, parce qu'on parle de Stanislas Baba, les gens oublient qu'il a quitté le pays pour les États-Unis pendant de longues années et qu'il est revenu avec une autre expertise pour être au niveau des affaires maritimes. Non, non, je crois que c'est quelqu'un qui est compétent, qui est à sa place. Maintenant, quand on parle de l'âge aussi, mais ouais, aux États-Unis, un certain Donald Trump avec 78 ans, mais qui est solide comme pas possible. Donc, c'est pas l'âge. Peut-être il faut parler des maladies, mais pas de l'âge. Parce que la personne... Stanislas Baba n'a pas 70 ans, vous vous trompez, il n'a pas cet âge, il doit être dans la soixantaine. Mais non, il peut même avoir 70 ans, est-ce qu'il est solide pour faire le travail? Vous voyez le président du Sénat, il a tant plus de 80, mais il est solide. Vous n'allez pas dire qu'il ne tient pas.
Non, ah, non, mais,
s'il vous plaît, on l'a vu. Et si vous, une fois je le disais ici, certains étaient choqués quand vous discutez avec Barquet, moi j'ai eu la chance de discuter une seule fois avec lui. C'est extraordinaire. Il connaît tout. Même sur notre métier, j'étais surpris. Avec une mémoire plus fraîche même que celle des jeunes. Maintenant, je ne dis pas de faire la promotion des vieilles personnes. Hein. Les jeunes ont besoin de travailler. Nous sommes les mêmes à dire aussi. Il faut qu'au niveau de l'opposition, on rajeunisse le personnel et tout ça. Mais après, je crois qu'on est dans une cinquième république. Les gens ont envie d'un signal au niveau du gouvernement, mais qui ne s'attendent pas à trop de miracles parce que c'est la même équipe qui a remporté les élections, qui a fait les réformes, qui a fait les élections. Mmh, maintenant, il faut peut-être choisir des gens qui ont le devoir de redevabilité. C'est-à-dire que nous sommes dans un régime où les ministres doivent rendre compte. Où on espère, le Parlement, les deux chambres vont travailler à ce que, à chaque fois qu'il y a problème, que ce ministre-là vienne.
Merci beaucoup, Jamer. Merci beaucoup, chers confrères. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. C'est vrai, je souhaitais qu'on parle aussi alors du Bénin avec la politique au Bénin qui est aussi dynamique, où Patrice Talon a choisi son dauphin pour la présidentielle alors de 2026. Et c'est bien sûr son ministre d'État, ministre des Finances et de l'Économie. Et c'est Romuald Ouadani. Nous allons revenir là-dessus après justement la réaction des auditeurs pour au moment où nous allons faire le dernier tour de table. Je vous donnerai la parole bien sûr pour que vous vous prononciez là-dessus, mais nous allons donner maintenant la parole à nos auditeurs pour qu'ils s'expriment sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75. Et nous rappelons que nous sommes toujours avec aussi notre invité monsieur Komi Nassini qui est le directeur général adjoint de l'agence éducation développement, agence chargée de la création et du pilotage alors des IFAD. Nous avons parlé alors des IFAD au cours alors de cette émission. Nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs, nous revenons juste après.
13.5 Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 et également nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Et notre premier auditeur se signale. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, monsieur Pascal.
C'est monsieur Maouna.
Oui, monsieur Pascal.
D'accord, bon, allez-y. Ça va pas la grâce, allez-y.
Ok, salut Plateau.
Et le Plateau aussi vous salue.
Je salue aussi les deux avocats défenseurs de ce régime aussi. Je ne vais pas nommer quelqu'un, mais ils se connaissent. Et je salue de l'invité aussi. Et je vais aller à l'IFAD. Tout à l'heure, l'invité a dit qu'ils ont formé les enfants, les gens. Et c'est le président en personne qui a donné le diplôme aux élèves. Moi, je voudrais souhaiter qu'ils me disent que le PCM a donné l'ordre de réhabiliter les cours d'eau. Et retourner d'où il est la ville là pour faire une pisciculture et on déplace les jeunes là-bas, ce serait mieux quoi. Que le PCM a donné spécialement les diplômes d'avoir les enfants pour aller en Europe. Vous savez, je dis quoi, monsieur le spatial. On s'amuse dans ce pays quoi. Avec le cours d'eau que vous avez.
Oui, monsieur Maouna.
Oui.
Finalement, la question c'est quoi?
Les chats ne partent pas sur le terrain.
Mais là, vous ne posez pas de questions. Oui, mais vous ne posez pas de questions, M. Maouda.
Oui, les Béninois, les Koundou, les uniformes, les gens, ça fait quoi? Comment ils vont faire? Comment on va pas les déplacer sur le terrain qu'on puisse manger? En tout cas, pour la fermeture des frontières,
d'accord. Pas
vous avez dit que c'est un compte de sécurité pour sécuriser la population. Moi, je me tombe de protéger quelle population, M. Pascal? Le fonds de sécurité qui vient dans les maisons pour nous tabasser. Pour ça, disant que la marche est interdite. Et c'est pour protéger, on ferme les frontières et on vous battre même à l'intérieur du pays. C'est ça qu'on appelle sécurité, M. Pascal. Ça, c'est pour une raison, c'est pour une autre raison. C'est pour faire d'assumer le pouvoir. C'est pour garder le pouvoir.
D'accord, merci, monsieur Mouna. Oui, on va donner la parole à d'autres personnes aussi, puisqu'il y a beaucoup de personnes en ligne. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 115. Nos deux numéros, bien sûr, sur lesquels vous pouvez nous appeler. Allô?
Allô.
Bonjour, madame ici.
J'ai atterri comme un cheveu dans la soupe, hein. C'est très bien. Bon, je vous fais un coucou là-bas. Et puis, on n'entend plus Eric Gator. Hein, tu as vu, il est cédé, il a comme tout, quoi. Et puis, je fais un coucou à ça, c'est Modeste. Et puis, Abby Alpha, tout le monde. Vous tous, I love you all. I love you all.
Merci. Bon,
maintenant, on a IPAD, ou IFAD, je sais pas, et Nouvelle, Waka, tout ça, l'éducation. Il n'y a rien qui existe dans une dictature militaire comme la nôtre. Il n'y a rien, rien n'existe dedans. Que du virtuel ou du, je sais pas, du tape à l'œil. Hein? Il faut que les gens prennent sur eux pour passer la main. Ils pourront rien nous faire. Et puis voilà. Et, comment j'allais dire? Les frontières sont fermées. Une fois c'est ouvert. Et puis, non. C'est pas une épicerie, c'est une république. Et on a tablé sur 5 ans. Qui dépassent les 5 ans, même les mânes ne sont plus avec le pays là. Et c'est les habitants qui souffrent. Le Dieu même n'est plus avec ces régimes. Et c'est nous qui souffrons. Ils n'ont pas arrêté. Et je vais demander aussi, bon, je vais dire quoi? Moi, je suis dans l'Europe, comme je te dis. je vais dire là-bas. J'espère que police, je crois qu'il écoute du rock jazz blues. Et Firmin, je l'invite aussi à écouter ce genre de musique pour qu'il fasse des analyses plus justes, hein, pour qu'il ne cautionne pas la dictature militaire,
d'accord,
qui nous écrase.
Mais merci, madame Essi. Vous aimez le rock, c'est bien ça, on l'a compris. 90, 86, 35, 35. Allô?
Oui, grand frère, bonjour.
Bonjour, Benoît?
Benoît. Dagoué.
Oui.
Bon, je salue le plateau.
Le plateau aussi, vous
saluez. J'aimerais comprendre une chose. Quels sont les rôles d'un maire, d'un préfet, d'un gouverneur. Je ne sais pas si dans la région maritime, il y a un gouverneur, il y a un préfet, il y a des maires. Je ne sais pas si c'est au gouverneur de prendre la sécurité de son territoire. S'il n'arrive pas à sécuriser, ou bien l'État va l'aider à sécuriser, s'il n'arrive pas à sécuriser la frontière, c'est lorsque le gouvernement va venir, comme l'affaire de Donald Trump, comme il y a les États qui ne sont pas favorables à Donald Trump, et laissent les immigrants venir perturber l'État. Donc, Donald Trump a envoyé les gardes républicaines pour mettre l'ordre. Je sais que même le gouverneur de ce lieu, il n'était pas d'accord. Donc, donnons le pouvoir à nos gouverneurs, à nos gouverneurs d'agir.
D'accord.
Quand vous parlez du gouvernement, on dit qu'il faut avoir un gouvernement solide. Vous allez, excusez-moi, il n'y a pas un gouvernement solide hein, en France ou bien en Israël. Bon, nous sommes unis là tout près, unis là le contrôle du tout. Mais il faut former le gouvernement, si ça ne marche pas, il faut limoger les gens et les remplacer. Merci et bonne journée.
Merci Benoît et bonne journée à toi aussi. Allô?
Allô, Canal FM.
Bonjour.
Yao depuis Noté.
Ah, monsieur Yao depuis Noté, allez-y.
Bon, pour la sécurisation du pays. Franchement dit, pour les frontières, moi je propose une chose au gouvernement, de faire les tranchées. Les tranchées comme on a fait à Koundouaré. Donc quand on fait les tranchées, franchement, moi j'ai déjà travaillé, sur les zones là, je connais bien. C'est-à-dire on peut faire tout, mais on va s'infiltrer toujours. Donc si on fait les tranchées des trous profonds, je te dis qu'ils ne vont même pas oser même descendre dans les trous et aller de l'autre côté. Moi, je propose au gouvernement de faire les tranchées. Les tranchées, ça veut dire qu'on fait des tranchées de large. On prend les catacombes, ils savent ce que je viens de parler. Sinon, il y aura les infiltrés dedans. Merci beaucoup.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ouyao. Bonjour, le plateau. La fermeture de la frontière est une chose. Contrôler la frontière est une chose aussi. La libre circulation des personnes et des biens aussi est une chose. C'est Yao Vide qui nous écrit à Noukapé, Noukafou, j'allais dire. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, Fanal FM.
Oui, votre nom c'est?
C'est Mathieu de Yokoy.
Ah, Mathieu?
Oui.
Allez-y.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Oui, j'aimerais d'abord vous remercier pour le débat, les débats d'aujourd'hui. Tous les points sont très utiles. Et moi, je vais intervenir sur le côté frontière du Togo-Ghana.
D'accord.
Et est-ce que le gouvernement a pris soin de voir ce qui utilise plus la frontière? Est-ce que c'est les Togolais ou bien c'est les Ghanais? Les petites frontières qui ont été bloquées. À mon même avis, je peux me tromper, mais je sais que c'est les Togolais. Il y a plus de Togolais qui habitent au-delà de la frontière, puisque les Ghanéens le sont au Togo. Ça fait un cas. Deuxièmement, on me parle du volet sécuritaire. Oui, c'est bien beau. Mais est-ce que la Gouda a été tuée au camp? Est-ce que ces gens-là ont traversé le Ghana pour venir faire ça? C'est pour dire que la sécurité, notre sécurité, oui, c'est très utile, mais ce ne sont pas des raisons, les raisons sont cachées. Et même, si c'est le cas, et pour enclencher la sécurité tout au long du cordon avec le Ghana, pourquoi fermer bientôt la rentrée? Les élèves qui sont de l'autre côté, comment ils vont faire? Ils se font des kilomètres avant de traverser, refaire des kilomètres, c'est quand même des Togolais en majorité qui souffrent. Merci, bonne émission.
Merci Mathieu, et bonne journée, merci pour votre intervention. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Très bien, chez vous.
Ça va aussi. Votre nom, c'est?
Jean à côté.
Ah, Jean à côté.
Noukafou, actuellement.
Oui, Jean à côté, allez-y.
Tout d'abord, je vous félicite pour le débat de jeudi à l'émission.
Merci.
En ce qui concerne les frontières, les frontières, j'aimerais vraiment souhaiter proposer aux valeureux journalistes quand même d'aller réellement faire des contacts sur le terrain. Parce que, justement, l'État fait de son mieux pour pouvoir permettre la libre circulation des biens des personnes. Mais parfois, au niveau de certaines frontières qui sont carrément fermées, les élèves veulent franchir, c'est compliqué. Les gens veulent aller à leurs préoccupations, mais c'est compliqué. J'aurais souhaité que, justement, que certains journalistes, si vous avez le temps, passer, faire des analyses et des constats, voir. Maintenant, j'aurais également souhaité que l'État puisse ouvrir certaines frontières au niveau de Ave Maria. La population même est prête de cotiser pour payer des conteneurs à ce niveau. Maintenant, par rapport au gouvernement, bien de pouvoir...
quand vous dites, Jean...
...les problèmes de la population, mais j'aurais souhaité vivement que les jeunes viennent aussi au pouvoir pour réellement constater les bienfaits de la 5e République que prône l'État. Merci.
D'accord, merci Jean pour votre intervention. Et Michel, on a quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Allô? Allô, il est parti. Bonjour Canal FM, je salue le plateau. Le gouvernement vient de fermer certains passages pour véhicules en autorisant que Ségbé et Aflao. La grande question, pourquoi la frontière d'Aflao, seuls les véhicules à quatre roues qui font les formalités, les motos et tricycles passent sans vérification. C'est Léonard qui nous écrit depuis Niekonakwa. Nous recevons notre dernier auditeur. Allô?
Oui.
C'est Pélé.
Oui, c'est Pélé.
Bonjour Pélé.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Je pense que le regard est tourné actuellement vers le nouveau gouvernement qui va sortir. Et moi j'avais prédit que ça devait être à partir de jeudi jusqu'au dimanche. Je pense que le regard a été fait au niveau de la mairie, tout ça là, comment se planifier pour que le gouvernement soit un gouvernement d'union nationale, qui des opposants pêchés pour entrer là-bas. Bon, tous ceux qui, tous les Togolais qui attendent de nouvelles choses pour ce gouvernement n'ont qu'à aller attendre l'avion à la gare et le train à l'aéroport. C'est clair et net. Et parce que je ne vois pas comment un président élu par un parti politique, parce que le président est élu par un parti politique, plus jamais dans le monde. Et à cette élection qu'on a été, le taux de participation était de moins de 20%. Et on remet le pouvoir, tout le pouvoir, à un homme qui n'atteint pas une majorité, au moins à 50% de la population togolaise. Et vous savez que nous sommes dans une situation aujourd'hui, on parle de la sécurité, dont on parle toujours de la sécurité, et je ne sais pas si vous avez parlé de.
D'accord, merci, oui, merci beaucoup Monsieur Pelé, puisque nous avons notre temps qui est déjà avancé. Chers confrères, nous revenons à plateau hein, pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. Oui, Germain, comme je le disais avant quand même qu'on ne donne la parole à nos auditeurs, je voudrais plutôt que vous vous prononciez sur cette politique alors au Bénin où Patrice Talon a choisi son dauphin pour la présidentielle de 2026. C'est Romuald Ouadani qui doit représenter l'UPR, le parti au pouvoir.
Oui, oui, Patrice Talon, j'allais dire, donc finalement désigné un dauphin. Beaucoup avaient pensé qu'il allait rempiler avec un troisième mandat. En tout cas, plusieurs faits ont laissé croire qu'il allait le faire. Bon, maintenant, il a décidé à partir. Il a affaibli suffisamment l'opposition. Il a nettoyé aussi les écuries au sein de son parti, hein, en envoyant en prison ses deux anciens hommes de confiance et tout cela. Donc je crois que on soupçonne qu'il veut diriger à travers son ministère des Finances, mais l'essentiel c'est que finalement il a respecté sa parole, donc il a dit il partait, il part, donc c'est une bonne chose. On ne peut que souhaiter que ça se passe bien comme
d'accord.
Il le souhaite.
D'accord, merci. Oui, Gabin.
Oui, quoi qu'on dise, Patrice Talon, il a le mérite hein, de quitter le pouvoir après deux mandats. Et peu importe la personne qu'on va choisir, on va dire que non, c'est Patrice Talon qui va gouverner à travers cette personne-là. Mais quoi qu'il en soit, la mouvance présidentielle devait choisir quand même un candidat. C'est Romuald Ouadani qui était ministre des Finances depuis 2016 avec Patrice Talon. Donc, il est comptable aussi du bilan de Patrice Talon. Il a fait beaucoup de choses en apportant assez hein, dans l'orthodoxie financière aujourd'hui au Bénin. Et donc, il est quand même hein, celui-là que les Béninois voient comme futur président du Bénin pour s'inscrire dans la dynamique de bâtissement du Bénin qu'a commencé Patrice Talon. Donc, moi, je pense que C'est mérité. Romuald Ouadani est resté travailleur, rigoureux, assez effacé hein, dans la sphère politique au Bénin. Et donc, bon, ce n'est pas un arriviste politique aussi, puisque le monsieur, il était déjà multimillionnaire avant de devenir ministre de Patrice Talon. Et donc, il a beaucoup apporté à ce
pays-là. Mais il n'a jamais participé au jeu électoral.
Non, il n'a jamais participé au jeu électoral. Oui. Maintenant, le jeu est ouvert parce qu'au Bénin, il n'y a que des hommes de qualité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'opposition, Eric Houndé était en train d'être positionné. Il y a aussi Daniel Eda qui est là. Et donc, on peut dire que c'est des hommes de qualité, d'accord, qui vont participer quand même à ces jours électoraux.
On reviendra forcément sur le sujet. Oui, Firmin,
vous savez ce qu'on appelle un esthète? Un esthète, c'est celui qui sait choisir les belles choses. Et que quand vous avez un homme qui est devenu esthète, vous devez vous méfier de cet homme-là. C'est-à-dire quand vous avez un homme qui tient tellement la forme, il porte des bijoux, les choses extraordinaires marchaient, il fait comme les femmes, il parle beaucoup. Vous devez savoir que cet homme-là cache quelque chose. Tout ce que Patrice est en train de faire, c'est tellement beau, mais c'est manipulateur. Cet homme cache quelque chose.
On attend voir. Oui, l'homme d'accord, 30 secondes.
Oui, 30 secondes. Moi, je pense plutôt que Patrice Talon, aujourd'hui, une chance pour le Bénin. une chance pour l'Afrique de l'Ouest. Et un exemple à suivre, surtout au Togo, où les gens, où nos dirigeants doivent préparer la relève, préparer leur dauphin et choisir des gens qui correspondent à la pyramide des âges du Togo. Aujourd'hui, le Togo, quand vous regardez la pyramide des âges, ceux qui sont plus de 60 ans, ils représentent peut-être 20%. Les 80%, ce n'est que des jeunes de la trentaine et de la quarantaine maximum. Donc, il fallait choisir un secrétaire de gouvernement qui soit plus dynamique, malgré l'expérience dont fait preuve celui qui a été choisi.
D'accord, monsieur Nassini, oui, nous sommes à la fin de cette émission. On va parler maintenant de la comment s'inscrire pour les IFAD, rapidement.
Je vous remercie. Pour s'inscrire dans les IFAD, c'est tout simple. Je vous ai parlé des IFAD connectés et tout. Donc, nous avons un site web qui est www.aed-6.tg. Et quand vous y allez, vous avez toutes les informations, vous avez des pages par IFAD et comment s'inscrire, vous avez tout ça.
D'accord, est-ce qu'il y a des numéros?
Oui, en plus, vous pouvez aller au niveau de chaque IFAD et puis vous allez, on va vous accueillir et puis on va vous aider à vous inscrire.
D'accord.
Je n'ai pas de numéro.
Oui,
excusez-moi, moi, je suis citoyen togolais. Oui. Et la question de la frontière qui est revenue. Moi, je voudrais vous dire simplement ceci. Normalement, le principe d'une frontière, c'est la libre circulation. Par principe, c'est pour ça qu'il y a la frontière, mais avec le principe de sécurité. Donc, savoir qui passe librement, mais qu'est-ce qu'il a avec lui et qui est-il. C'est appliqué par la logistique permet de le vérifier au niveau des aéroports. Mais le principe ne doit pas être réservé aux aéroports. C'est par manque de logistique que ce n'est pas appliqué au niveau, par exemple, des frontières terrestres. Et donc, il ne devrait pas du tout avoir de débat quand on ne ferme pas une frontière, mais qu'on dit plutôt qu'on veut vérifier. Parce que le principe de la frontière, c'est de passer, bien sûr, d'accord, mais c'est qu'on sache qui passe et qu'est-ce qu'il passe avec.
Merci beaucoup. Voilà. La tradition au Club de la Presse, je vous le dis, monsieur Nassini, c'est que c'est l'invité qui assure la troisième mi-temps. Est-ce que vous le ferez?
Je ne connais pas le contenu de la troisième mi-temps, sinon je m'engagerai à le faire.
D'accord. Ce qui est sûr, ce n'est pas compliqué. Merci, merci beaucoup, monsieur Komi Nassini, d'être passé alors dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de l'agence éducation développement AED, agence chargée de la création et du pilotage alors des IFAD. Merci d'être passé chez nous. Merci à Gabin Adjaro d'être passé. Merci à Germain Pouli d'être passé chez nous. Et merci à Firmet Kouagbo d'être passé également dans cette émission. Et l'homme d'Amelda, merci à vous. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachteiner, la vie dorée.